les assemblées du désert. Donc on avait vu qu'avec l'édit de Fontainebleau, l'exercice de la religion protestante, toute émigration est interdite. Les pasteurs, donc on a vu, sont bannis ou mis à mort. Et partout en France, donc, les protestants sont soumis à une opposition, à une persécution vraiment de plus en plus terrible. Alors il y a une région de France, comme nulle part ailleurs, qui va connaître les pires persécutions, c'est dans les Cévennes. Alors les Cévennes, c'est donc au sud du Massif central, au sud-est du Massif central. Et donc dans cette région, la réforme va prendre mais pratiquement 100% de la population. C'est une région qui va être le plus touchée par la réforme. Et donc, c'est sur cette région que va se cristalliser, je puis dire, la répression contre les protestants et de la part des autorités civiles et religieuses. Jean Ferrat parlait du sabre et du goupillon. C'est ça. On a à la fois l'alliance du sabre militaire et du goupillon de la religion. Alors, dans cette région, vous avez à côté d'Alès le mas Soubiran, le mas, on dit un mas, donc sur une commune qu'on appelle Nialé. C'est une région très belle, Saint-Jean-du-Gard, toute cette région-là, ça c'est vraiment les Cévennes. Et dans cette région, ils vont souffrir d'une manière terrible, mais le reste de la France va connaître aussi la même chose, mais moins, peut-être moins forte. Et dans ce petit village de Nialé, Mas Soubiran, c'est là qu'il va y avoir donc un musée qui va être créé en 1911 pour se rappeler de la foi et des souffrances qu'ont connues donc ces protestants. On appelle ce musée aux martyrs du désert, les protestants de France et du refuge. Les protestants du refuge, ce sont tous ceux qui vont partir de France. On les appelle ceux du refuge. Autre vue du musée, alors moi j'y ai été au moins trois fois, si vous avez l'occasion d'aller dans le Gard, mes chers amis, c'est notre musée. Le Louvre c'est mignon, j'aime bien, mais ça c'est autre chose. Vous allez là, je vous assure que vous allez toucher. Que si l'heure, si vous allez vous donne un guide chrétien, il y a beaucoup de guides chrétiens, et là ça prend une valeur extraordinaire, vraiment... C'est fantastique. Enfin, on va voir un peu quand même ensemble un peu de quoi est constitué ce musée. Alors voilà une veillée, Cévenole, au XVIIIe siècle. Donc c'est une des figures de cire. Alors vous avez le papé là, qui fait la lecture de la Bible. Vous avez la mamie, tout ça, qui écoute l'enfant et tout. Et vous avez déjà les dents de grande fille qui sont à la fenêtre. Parce que si jamais ils étaient pris en train de lire la Bible, c'était la prison à vie pour les femmes et les galères pour les hommes. Qu'est-ce que vous auriez fait, mes amis? Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais lu ma Bible comme ça, tranquille? Enfin, tranquille. Non. Bon, vraiment, c'est merveilleux de voir leur foi. Vous avez donc une première salle, la salle de Roland et Cavalier. Qui sont ces deux hommes? Ce sont les Camisards. Alors, les Camisards, vous avez peut-être entendu parler de ce nom. Les Camisards, c'était la tenue, la chemise, la camisa. Qu'avaient ces gens, ils étaient en chemise en bleu de travail, enfin une chemise de travail, et pour ça qu'on les a appelés les camisards. Donc ils vont essayer, eux, par les armes, de se révolter contre les dragons du roi qui viennent pour tuer, assassiner, détruire. Mais la guerre des camisards va commencer en 1702, mais elle ne va pas durer très longtemps, parce que les soldats qui vont arriver en masse, en masse, en masse, en masse, et donc ils vont malheureusement disparaître, être écrasés par les soldats. Donc la Cévenne, la révolte des Camisards est une aventure héroïque sans lendemain, entre soumission apparente et clandestinité, qu'on appelle le culte du désert, je vous expliquais ça, une poignée de fidèles maintient la flamme du protestantisme. Cette région aujourd'hui encore est très protestante. Si vous allez dans cette région-là, il y a beaucoup de temples protestants. À Saint-Jean-du-Gard en particulier, j'ai eu l'occasion d'y aller. Bon, c'est sûr que ce sont des protestants qui malheureusement ont perdu la foi. Souvent, c'est un protestantisme comme ça. Bon, Quand en Allemagne, c'est là où il y a eu Luther, il y a 5 siècles, et aujourd'hui, en Allemagne, on nie la naissance virginale de Marie, de Christ. Vous y croyez si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. La résurrection, c'est pareil. Vous pouvez y croire si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Alors, s'il n'y a pas tout ça, à quoi ça sert de croire? Croire en quoi? Donc, c'est des régions qui ont été bénies, mais malheureusement, oui, il faut toujours se réformer. Sinon, on perd notre foi, on perd notre punch, on perd notre désir de servir le Seigneur, et là, on est mal parti. Donc, ces gens-là vont donc lutter pour essayer de garder la foi protestante. Donc, on voit ici la région, hein. Voilà, donc là, ici, vous avez la mer. Et là, donc, le Gard avec Nîmes, tout ça, donc la Lozère, l'Ardèche, l'Aveyron. Ouais. Donc, c'est cette région-là qui va se soulever. Ça fait quand même beaucoup de monde, hein. Ça fait quand même une belle région, hein. Donc, je passe un peu. Voilà, donc les Camisards. Voilà la région, on en a déjà parlé tout à l'heure. Bon, je passe rapidement. Ouais, c'est carrément les soldats. Ils vont se battre contre les soldats. Hein. Mais je vous ai dit, ça ne va pas durer bien longtemps. Alors, ils sont. Voilà la région, les montagnes Cévenoles. Hein, donc, c'est une région un peu accidentée. Donc, pour mettre des embuscades. En plus, ils connaissent le terrain parfaitement. Et c'est une région où il y a beaucoup de cavernes, beaucoup de grottes. Donc, ils se cachent là et tout. Certains ont été dénoncés, pris. Mais comme les soldats ne voulaient pas les se faire tuer en entrant dans la grotte, qu'est-ce qu'on faisait? On murait la grotte avec les gens dedans. C'était expéditif, si je puis dire. Et donc, il y a beaucoup de ces grottes qu'on n'a pas encore retrouvées. On sait que, mais on n'a pas encore retrouvé. Voilà donc les deux chefs, Jean Cavalier et Pierre Laporte. Alors, c'était des gens locaux, quoi. C'était pas des chefs de guerre. Hein. C'était, il y en a qui était boulanger, je crois, et l'autre, il était, je ne sais plus quoi, enfin, paysan. C'était pour défendre leur pays. Et donc, ça va durer, je pense qu'en 1710. Cette révolte. Voilà leurs armes. Vous voyez, c'est une fourche à fagot, ça. Là, il y a une épée. On ne sait pas, il y a toute une histoire sur cette épée. Est-ce qu'elle a été volée à un soldat militaire qui venait les ennuyer, les fourches, etc. Voilà. Donc, je passe un peu là-dessus. Ça, c'est le général qui va venir les combattre, mais il va essayer de transiger avec eux. C'est ce qui va se passer, en particulier avec... Cavalier, on le voit ici, donc pour qu'il baisse les armes. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Et puis le dernier résistant, ça va donc être Roland, qui va mourir lui aussi. Bon, il est où? Il ne veut pas venir. Voilà. Il va être trahi et tué le 14 août 1704. Et là, c'est la fin de la guerre des Camisards contre le roi et contre les dragons du roi. Mon but n'est autre de soutenir jusqu'à mon dernier souffle ma chère religion et ma patrie. Voilà le terme de Roland. Ma chère religion et ma patrie. Alors, autre salle de ce musée, la salle de la Bible. Alors, vous avez des vieilles Bibles, tout style, toutes sortes, mais il y en a une particulière qui est très remarquable, c'est les Bibles de Chignon. Voilà. Alors, les Bibles de Chignon, regardez la taille, était utilisé dans les assemblées clandestines par les femmes qui avaient à l'époque des chignons. Donc, le chignon, ouais. Et donc, elles cachaient leur Bible dans leur chignon. Il faut déjà avoir des cheveux, hein. Hein, c'est pas évident pour tout le monde. Mais enfin, vu la taille de la Bible, je pense qu'il ne fallait pas avoir une chevelure trop, trop abondante pour pouvoir les cacher. Ça va toucher parce que ça donne une idée de la manière dont ils pratiquaient se cacher, avoir des systèmes de trouvailles pour pouvoir vivre sa voie chrétienne sans toutefois se faire prendre. Là, vous avez un Nouveau Testament, Martin. Alors, regardez, il vient d'Amsterdam. Pourquoi? Parce que la France, c'était fini. La Bible, on n'en parlait plus. Il ne fallait plus ni en imprimer. C'était terminé. L'Église avait mis le blackout total, pas question. Donc, si en France il n'y avait plus ça, nos amis protestants ici de Hollande imprimaient les Bibles pour qu'elles puissent venir en France. On sait le nom de ceux qui les ont amenés et on sait aussi que pratiquement tous sont morts, brûlés vifs. Même là, avec sa charge de Bible sur lui, brûlés vifs, quoi. Ça, ça vient donc, c'est le Nouveau Testament. Là, vous allez avoir, je crois, d'Allemagne, Cologne, c'est en Allemagne. Donc, vous voyez, les plaintes des protestants cruellement opprimés dans le royaume de France. Toute l'Europe est indignée de la manière dont les protestants français sont considérés et persécutés. Toute l'Europe. Ça a marqué l'Europe, d'ailleurs. Et je pense que quelquefois, il y a un sentiment un peu anti-français en Europe qui vient en grande partie de là, parce qu'ils considèrent qu'on a tué d'une manière épouvantable nos propres concitoyens. Et puis aussi, vous avez donc, depuis Rotterdam, alors ça c'est la Hollande, donc vous voyez, en plusieurs pays de... lettre pastorale adressée aux fidèles de France qui gémissent sous la captivité de Babylone. Alors vous qui connaissez la vision qu'on a de Babylone, et le monde entier, enfin l'Europe entière. Ouais, voilà. Donc il envoie des lettres pour encourager les chrétiens. Parce que les pasteurs, malheureusement, on va voir, sont tous été ou dispersés ou emprisonnés, etc. Donc il y a quand même, de la part de l'extérieur, de l'aide pour pouvoir continuer à enseigner la Bible. Alors, ici, donc, la salle des assemblées. Alors, donc, ces assemblées ne peuvent plus se réunir dans un temple. Le temple a été rasé. Où se réunir ? Chez quelqu'un ? Mais si le pauvre, il se fait prendre, c'est pareil. Donc, on va se réfugier un peu n'importe où. On va aller dans des cavernes, on va aller dans des endroits un peu cachés pour écouter la Bible, pour pouvoir se réunir, pour pouvoir prier, etc., etc. Donc, dans cette salle des assemblées, il y a quelque chose de très particulier, c'est les moyens que les chrétiens avaient trouvés pour pouvoir avoir un culte. Alors là, vous avez un faux tonneau. Alors en réalité, ça c'est un tonneau, c'est le Gard, c'est une région viticole. Et là, ça rentrait dedans. Oui, ça rentrait dedans. Donc, on emmenait le tonneau sur une charrette, et quand on arrivait au lieu de culte, on retirait le tonneau et hop, on sortait le dessus du tonneau. Oh là, c'est pas vrai. Possible, ça pourtant j'ai bien serré tout à l'heure. Hein. Comment le mettre sur quoi ? Un peu plus costaud ? Non, il n'y a pas, a priori c'est bon. Ah oui, ça c'est plus costaud. Bon, avez-vous compris le système ? Donc ça se rentre dedans, quoi. Ça coulissait. Voilà. 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 On en était à notre faux tonneau. Donc, il a été inauguré en 1911. Et en 2011, c'était le 100e anniversaire du musée. Le président de la République en place, que vous reconnaissez, est donc venu pour ce 100e. Et j'ai lu le texte. Bon, c'est un texte qui vaut ce qu'il vaut, mais j'ai trouvé vraiment très bien concernant la foi du Huguenot. Très, très bien. Voilà, on voit ici encore un autre de ces chairs démontables, hein, repliables et tout. Une autre astuce, alors voilà, donc il prenait le pain et le vin, contrairement à l'Église catholique, et alors il démontait, ça c'est donc pour la coupe, elle était démontable, vous voyez, trois parties. Donc il y en avait un qui prenait une partie, l'autre une autre partie, et hop, s'ils étaient pris par les soldats, bah, qu'est-ce que c'est que ça, c'est très mal. Si tu avais été pris avec la coupe en entier, c'était, ton compte était bon là. Voilà encore une petite astuce. Ah, voilà donc un exemple d'une gravure d'époque d'une assemblée du désert. Alors pourquoi le désert? Le désert, ça me fait penser dans l'Ancien Testament à ces 40 années pendant lesquelles les Juifs ont été complètement en dehors de tout. Ils n'avaient plus de non plus, ils avaient, avant que le tabernacle soit construit, même pendant que le tabernacle soit construit. Donc ils étaient en plein désert, un endroit où ils vivaient plus ou moins en clandestinité. Et donc, eux aussi, ils errent dans le désert, lieu de tribulation, de tentation, de désespoir. Et donc, ils ont eu cette pensée d'assemblée du désert en relation donc avec ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Et là, donc, vous avez un exemple. Là, on voit très bien la chair du pasteur, parce que quand même, il fallait une chair pour le pasteur, même si c'était en pleine campagne. Voilà. Et vous avez donc les personnes qui sont venues là pour pouvoir assister au culte chrétien. Mais là encore, ils avaient un système de défense, c'est ce qu'on appelait les encas, c'est-à-dire c'était des gens, c'était des guetteurs qui avaient des parapluies, et si jamais les soldats arrivaient, hop, on ouvrait le parapluie, donc on en voit un là et on en voit un là, et encore un dernier moyen, c'était le moulin. Dans cette région du Gard, il y a beaucoup de moulins, hein, les lettres de mon moulin. Eh bien, donc il y avait beaucoup de moulins. Alors, en fonction de la manière dont étaient inclinées les ailes du moulin, c'était il y a danger ou pas. Voilà. Donc c'était une manière, oui. Mais ils vivaient complètement dans la peur, dans la crainte. Hein. Et si jamais ils se faisaient prendre, on va voir un exemple, c'était tout de suite terrible. Voilà un exemple hein, de. Bon, ça, c'est beaucoup plus récent, ça date de 1898. Les héros de la foi, donc vous avez le pasteur qui est là. Et vous avez donc les hommes et les femmes qui sont... Mais regardez, le peintre a bien montré quand même la crainte que peut avoir cette femme avec son enfant. Parce que s'ils étaient pris, la femme et l'enfant allaient en prison. Hein. Prison à vie. C'est vraiment l'église de l'ombre. Hein. L'église de l'ombre. Hein. Comme certains, nos bien-aimés de l'ex-URSS ont connu, et que certains chrétiens connaissent encore aujourd'hui. Hein. Faut pas s'imaginer. Alors voilà des exemples de condamnation contre les religionnaires, c'est un autre terme aussi qu'on leur donne, vous voyez, les jugements de par le roi. Alors, ils sont, pourquoi? Ben parce qu'ils ont fait baptiser leurs enfants par des pasteurs. Voilà, ils ont été pris, et donc, un autre, ils se sont mariés par un pasteur. Voyez, donc, le mariage n'était pas valable, et puis également, je dis, pour les enfants, eh bien, le fait d'être baptisé, ça ne servait non plus à rien, aux yeux des catholiques. Alors, voilà un exemple d'une assemblée, le triste sort de la réunion d'une assemblée du désert, donc un petit village s'appelle La Baumelle. Alors, l'année du 26 au 27 décembre 1688, une assemblée se tint dans une caverne située dans le Mas Soubiran, donc pas très loin du musée, et le hameau de La Baumelle, paroisse de Miel. Mais ça, c'est un exemple, hein. Donc, malheureusement, ben, ils vont être certainement trahis, ils vont être découverts, et les peines vont être terribles. Quarante-sept prisonniers sont conduits à Alès, Saint-Hippolyte et Nîmes, c'est-à-dire déjà en prison. Ensuite, deux des responsables sont exécutés par pendaison à Anduze. Il n'y a pas de procès. 16 femmes sont menées au château de Sommières. C'est une des prisons dont je vous montrerai tout à l'heure un peu ce que c'était. Une femme est emprisonnée à la tour de Constance. Je vous en parlerai aussi. Mais retenez déjà un peu les noms. Enfin, Sommières, etc. 8 sont condamnées aux galères. Les galères, c'était donc à vie, hein. On a les noms. Et puis donc, également un prédicateur Il va mourir pendant son transfert à Montpellier, certainement à cause des gentils traitements qu'on a dû lui infliger. Voilà donc ce que vous risquez. C'est clair. C'est là qu'il faut comprendre quelle grâce nous avons de la liberté de nous réunir comme nous pouvons le faire aujourd'hui. La salle des du refuge. Ah bon, pardon, je n'ai pas fini. Le frais de procédure criminel incombe aux familles des condamnés. En conséquence, les communes de Mialet, Générac, Saint-Sébastien subirent le logement en pure perte d'une compagnie de soldats. Ça veut dire que c'est les soldats qui viennent chez vous et vous devez tout leur donner. C'est vous qui devez les nourrir, c'est vous qui devez les coucher. C'est vous. Voilà. Ils sont chez eux. Et même, quelqu'un a dit, ils sont pires que si c'était chez un territoire ennemi. Tout ça pour obliger les gens à se convertir. Et puis donc, la grotte a été murée. J'en ai parlé tout à l'heure, par ordre royal, et elle a été redécouverte en 1970 seulement. Alors beaucoup de protestants, voyant qu'ils sont persécutés, vont partir. Ils vont partir, et il y a une salle spéciale qu'on appelle la salle des réfugiés, il y en a qui sont partis au Danemark, il y a la salle des réfugiés, et qui parle de tous ces chrétiens huguenots, vraiment enfants de Dieu, parce que vu ce qu'ils font, il faut vraiment être enfant de Dieu, qui vont quitter le pays pour aller se réfugier. Alors, quels sont les pays où ils vont pouvoir aller? Eh bien, déjà, il est interdit de partir. Bonjour, monsieur Louis, de la grâce de Dieu. Il va interdire déclaration, contre ceux de la religion, on a vu, défense de partir du royaume. Oui, parce que, en réalité, ça va être très mauvais, ce départ. On en aura quelques exemples. La France compte à peu près 20 millions de personnes à l'époque. Donc trois fois moins qu'actuellement. Les protestants sont à peu près 800 000. On est entre 800 000 et 1 million. C'est déjà important. Et à cette époque-là, à peu près 200 000 vont émigrer. Donc il y a 200 000 chrétiens qui vont émigrer dans toute l'Europe et même plus loin que l'Europe. On va voir qu'il y a aussi des exemples. Donc, à un moment, Colbert, dont on a vu tout à l'heure, et d'autres vont dire, attention, ils sont en train de partir, et ils emmènent avec eux toute leur technique, toute leur capacité intellectuelle, parce que généralement, les gens qui savaient lire étaient ou artisans, ou commerçants, ou seigneurs. On en a parlé. C'est pas qu'ils ne voulaient pas l'annoncer aux autres, mais disons qu'eux, ils étaient connus. Donc, ils vont emmener avec eux, dans ces pays, toutes leurs capacités. Et on va voir que ça va très vite être, pour la France, une perte énorme. En Angleterre, 50 000. En Hollande, 65 000. Alors, la Hollande, c'est vraiment le pays huguenot. Vous allez en Hollande, le cimetière des huguenots, la rue des huguenots, etc., etc., partout. Ensuite, en Allemagne, 40 000. Et en Suisse, 22 000. Et on pourrait parler également que tous ceux qui sont passés en Angleterre sont partis ensuite dans d'autres pays comme les États-Unis, comme l'Afrique du Sud, etc., etc. Donc ça va être un exode extraordinaire que vont permettre. Alors vous voyez, les nations qu'ils ont recueillies ont été souvent des nations bénies. Les nations bénies. Donc vous voyez. Alors par exemple, je vais passer un peu parce que ça serait un peu long. En Allemagne, 26 500 huguenots vont passer, certains vont rester et d'autres vont aller plus loin. Et quand on a été à Berlin, j'étais très étonné de voir cela. C'est une église huguenote, bâtie par les huguenots qui sont partis. Et le culte a été en français pendant très très longtemps. Et donc, on voit très bien qu'ils ont eu à cœur de... Bon, c'est quand même un bâtiment très très costaud, Voilà, donc à Berlin. Donc on a la trace de tous ces gens-là un peu dans le monde entier. Alors, la ville qui a vraiment reçu le plus et d'une manière extraordinaire les protestants, c'était la Suisse. La Suisse, et ça, la place du Mollard, c'est une place centrale à Genève. Et vous avez donc une très belle statue, plutôt un bas-relief. Vous voyez la ville de Genève avec ses armoiries en train de protéger le protestant démuni qui arrive. C'est beau quand vous voyez ça, mais je me rappelle quand j'avais vu ça, ça m'avait, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Hein. Surtout que je suis venu devenir chrétien par l'intermédiaire de l'Action biblique, et l'Action biblique, c'est Suisse. Donc j'ai un petit penchant pour ce pays. Voilà. Donc on voit très bien que là, ça va être un exil très important, et Genève va être une plaque tournante, et ils vont arriver par milliers. La ville de Genève est une toute petite ville à l'époque, ils dorment à 20-30 par chambre. Et ils disent, on dirait que les murs s'écartent. Ils avaient vraiment à cœur de recevoir ces gens-là. Ils étaient bien accueillis, enfin c'était extraordinaire. Les récits sont beaux à lire, comment ces protestants ont été accueillis. Et alors ils ont apporté avec eux l'horlogerie. L'horlogerie qui est un des richesses de la Suisse vient de France. Toutes les grandes marques, Piaget, Lecoultre, etc., de montres suisses, ce sont des Français. Et quelqu'un, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, qui me disait, oui, les Suisses le savent. Les Suisses le savent, pas les Français. Mais on rachète très cher, hein, parce que c'est pas des montres à 2 balles, hein, comme on dit. Hein. Ça coûte très cher. Donc l'horlogerie, c'est un exemple, hein, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu même par exemple, on sait qu'en Allemagne, à l'époque, c'était un pays assez pauvre, eh bien, les Français ont amené l'agriculture en Allemagne. Hein, il y a eu un développement de l'agriculture, et puis ceci, et puis cela, etc. Et aussi, un enrichissement spirituel énorme. Parce que ces gens qui arrivaient avaient une foi, mais en béton, parce qu'on ne quitte pas son pays comme ça, il faut vraiment avoir la foi, le désir, etc. Et donc, il y a eu un renouvellement spirituel dans ces pays, et ils en sont encore bénis. Je ne sais pas pour combien de temps, parce que malheureusement, là aussi, la foi elle décline un peu. Hein. Mais quand même, il y a des choses qui se sont faites. À Londres, une église huguenote à Londres. Aux États-Unis, on pense qu'à la Révolution américaine, il y avait à peu près 100 000 Américains d'origine huguenote sur 1,5 million de personnes. C'est-à-dire 7% des Américains sont d'origine huguenote. Et j'ai appris, alors tout à fait incidemment, que quand ils passaient en Angleterre, alors ça c'est un timbre commémoratif pour le 300e anniversaire de l'arrivée des Huguenots et des Wallons, en 1624, quand les Français sont arrivés aux États-Unis, ils ont donc peuplé tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible Belt, c'est-à-dire tous les pays du Sud, la Virginie, toutes ces régions-là, la Caroline du Sud. Souvent, ce sont des Français qui se sont installés et qui ont changé leur nom. C'est ça notre problème, c'est que, par exemple, Davy Crockett, vous avez entendu parler de Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur, c'est un huguenot. Il a changé son nom quand il est arrivé en Angleterre parce qu'il s'appelait Croque-Magne et ils en avaient tellement marre de la France, ils s'étaient souffert, ils changeaient de nom. Donc il a pris une croquette. Quand tu arrives aux États-Unis, ben voilà. Davy Crockett est un descendant du huguenot. Donc, la Virginie, la Caroline du Sud, la Nouvelle-Amsterdam, New York. À New York, vous avez une ville, juste à côté de New York, une histoire, je ne peux pas vous raconter, mais une ville s'appelle La Rochelle. Et cette ville de La Rochelle, qui est à côté de New York, ce sont les gens de La Rochelle qui sont partis aux États-Unis, qui ont fondé cette ville. Ils avaient été quand même persécutés terriblement par Richelieu. Et il y a 20 000 Rochelais qui sont morts de faim quand même. Sur 28 000 personnes. Et donc, ils ont créé cette ville et ils ont apporté énormément dans le New Jersey. Enfin, toute cette région des États-Unis a été vraiment peuplée par des Français. Un autre exemple aussi, c'est l'Afrique du Sud. Vous avez donc ici un monument dédié aux huguenots français, à French Look, c'est-à-dire le coin des Français, en Afrique du Sud. Voilà donc d'où venaient ces 178 familles qui sont passées en Afrique du Sud. Et vous avez des Duplessis en Afrique du Sud, des Devilliers, Dutoit, des Joubert, des Marais, De Clercq, qui a été le président à un moment, c'est Leclerc. C'est Leclerc. Bon, donc ils ont amené énormément de choses, et puis il y avait aussi donc des Hollandais qui étaient là, qu'on appelle les Afrikaners. Il y a eu un développement spirituel aussi énorme là-bas en Afrique du Sud. La France a ensemencé de son sang, là, notre pays, mais de la foi d'autres pays. Voilà. Donc c'est extraordinaire. On pourrait faire une étude un peu plus précise, mais ça a été incroyable la richesse que les Français ont apportée dans ce pays. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu partir, et on a dans ce musée un hommage énorme, vibrant, auprès des femmes qui ont préféré la prison à vie que d'être renier leur foi. Alors vous avez, voilà un exemple, voilà, c'est là, c'est, tous les hommes sont partis parce que ils ont été tellement persécutés, non seulement, en réalité tous les hommes étaient persécutés, parce que même si c'était pas le pasteur, ils savaient qu'il y avait des gens qui allaient prendre le relais, etc., etc. Donc on voit beaucoup de femmes qui sont là, bon, des vieux monsieur aussi, vous voyez, donc le pasteur hein, en train d'annoncer la parole de Dieu. Et donc il y avait trois tours très connues. La première, c'est le château de Sommières dans le Gard. Alors, c'est une photo que j'ai prise, hein. C'est une immense bâtisse hein, où il y avait donc des prisonnières qui étaient là. Le deuxième château, alors c'est encore plus affreux, c'est la tour de Cré, hein, c'est dans la Drôme, côté de la rivière la Drôme et tout. Là, il y a eu, donc c'est le plus gros donjon de France, 52 mètres. Et puis, bien sûr, le troisième quai. Voilà, donc ça, c'est une photo que j'ai prise là où étaient les prisonniers, vous voyez. Donc, il n'y avait pas de commodité, il n'y avait rien, quoi, c'était... Et donc, ils ont souffert terriblement, là, les pierres gardent le souvenir des martyrs hein, de cette époque-là. Et puis, le dernier, ben, c'est la tour de Constance avec morte. Hein. Vous avez tous peut-être entendu parler de là. C'est la plus connue. C'est un cylindre de 30 mètres de haut. Et donc, c'est là que les femmes... Enfin, d'abord les hommes. Mais les hommes partaient aux galères. Et les femmes, donc, étaient restées là. En 1705, il y a encore 30 prisonnières, etc., là-dedans, dans cette abominable tour. Voilà, donc une représentation. Hein, donc les femmes étaient là et elles étaient prisonnières pour fait de religion. Et donc il va y avoir des femmes qui vivent dans la promiscuité, pas d'hygiène. Hein, donc pour les femmes, je pense que c'est encore plus compliqué que pour les hommes. Pas d'hygiène, rien. Simplement, certaines d'ailleurs meurent. Beaucoup vont donc mourir de maladies. Certaines vont donc devenir folles. Oui, folles. Hein. Et voilà, donc c'est terrible. Voilà ces femmes. Elles sont désespérées. Mais elles n'abjurent pas. Elles ont résisté. La plus connue, c'est donc Marie Durand. Vous avez peut-être entendu parler de cette femme. Marie Durand, elle va rester 38 ans en prison. Pas de jugement, hein. Il n'y a pas eu un jugement, dire bon, elle mérite. Non, 38 ans de prison. Et donc, sa foi va s'affermir, au contraire. Hein. Elle va apprendre la mort de son frère, qui était donc pasteur du désert, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc elle va les encourager, et c'est vraiment l'âme de la résistance aux pressions de la hiérarchie catholique qui voulait donc qu'elles se convertissent. Mais elles vont résister. Et d'ailleurs, il y a, voilà, donc, autour de Constance, il y a donc une plaque commémorative, Marie Durand, donc 1730-1768, donc la tour de Constance, et vous avez ici Régisté, parce que en réalité, on sait que sur la, il y avait un puits dans cette tour abominable, et ils ont écrit sur le bord de la margelle de ce puits Régisté. Ça, c'est de l'occitan, mais traduit en bon français, c'est résister. Donc, c'était le mot d'ordre. Elles ont résisté pendant des dizaines d'années, alors que si elles avaient abjuré, elles pouvaient retrouver leur famille, elles pouvaient retrouver, etc. Quel exemple pour nous. Et je trouve que souvent, ben, les femmes, à ce niveau-là, elles sont très endurantes. Elles sont très, très endurantes. Oui. Alors, donc, il y a un timbre qui rappelle ça. Ce timbre, j'ai l'original. Deuxième centenaire de la libération des prisonnières huguenotes, en 1768. Donc, les dernières prisonnières ont été libérées. Mais pas par le roi, par un prince du coin, un responsable du coin, qui a vu ça, qui a dit « Allez, vous sortez ». Bon, malgré l'autorité royale, il a dit « Vous sortez ». Voilà, il a dit « C'est plus possible ». Voilà. Donc, ce timbre-poste est mis en 1968, rappelle donc le 200e anniversaire de la libération des dernières femmes. Et là, vous avez une plaque à la mémoire du pasteur Pierre Durand, condamné à mort, exécuté à Montpellier, et de sa sœur, 38 ans, et là, signe « Si mon Sauveur veut m'appeler à signer de mon sang son Saint-Évangile, sa volonté soit faite. » Et il a été... il est mort, effectivement. Et donc, sa sœur, résistait. Voilà. Courage, hein. Alors, les protestants, les hommes, étaient donc condamnés aux galères, à vie. C'était pas pour 50, 10 ans, à vie. Alors, si vous étiez pasteur, tentative de fuite à l'étranger, assistance ou hébergement d'un représentant, pasteur ou autre, et donc, c'était toujours à vie. Voilà. Et certains ont été, quand ils étaient trop faibles, ils ont été emmenés aux Antilles. Je sais qu'il y a des Antillais parmi vous. Est-ce que c'est l'origine des Caldoches, c'est ça? Alors comment s'appellent les gens du pays?
Les Béquets.
Les Béquets. Comment? Ah, ben voilà, tu vois. Ah bon, tu connais?
Oui,
Philippe David, ça descend. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est des Béquets. D'accord. Donc voilà, bah, certainement que c'est un de ces... Certains, quand ils étaient trop faibles, on les emmenait très loin. Il y avait 20 ans là-bas aux Antilles. Donc, la ville, c'est ça, d'accord, ok. Donc la salle des galériens. Alors, les galériens, quand ils étaient attrapés, la première chose qu'on faisait, ils étaient flétris. C'est-à-dire qu'au fer rouge, on mettait sur l'épaule droite G-A-L, comme galérien. Déjà, vous étiez marqués... pour votre avenir, si je puis dire. Ensuite, c'était la chaîne, on les emmenait, là, ils étaient attachés l'un à l'autre, et aussi avec celui de devant et celui de derrière. Donc imaginez comme ça, pour faire la moindre étape, c'était beaucoup mouraient, hein. Beaucoup mouraient sous les coups, beaucoup mouraient de faim, etc. Ils étaient donc à pied, bien sûr, logement presque nul, nourriture presque nulle, donc vraiment, ils étaient déjà... Eh bien, on voit ici comment celui qui tombait était frappé, etc., etc. Ça, c'était donc les galériens. Alors, par exemple, ceux qui étaient... Parce que le Saint-Onge, Poitiers, je pense qu'il y en a qui connaissent cette région, il y avait beaucoup de protestants dans toute cette région-là aussi. Et par exemple, pour aller de Poitiers à Marseille, ça durait 30 à 40 jours de marche, comme ça. Donc après, ils étaient donc enchaînés sur des bancs, comme on voit ici, donc c'était des rames de 300 kilos. Ils étaient 5 par rame, et donc ils devaient ramer, etc. Et vous savez que une galère, quand il y avait un combat, si la galère coulait, c'était fini. C'était fini. Là, on a un costume des galériens, mais je vais passer un peu parce que je passe trop de temps. Voilà, les fers du galérien. Alors, il y a quelque chose de très très émouvant au musée du désert, donc là-bas, c'est toutes les noms des 5000 galériens qui sont morts. Enfin, 5000, c'est un chiffre rond, quoi. Et là, aussi, c'est marqué à la mémoire sacrée des 5000 galériens qui souffrirent et moururent pour leur foi. 1784-1775. Et là, vous avez les noms de tous ces galériens. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir des gens qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, etc., qui essayent de retrouver leurs ancêtres. Et ce qui s'est passé pour nous, on a donc des amis anglais, qui sont auprès du Seigneur maintenant, et donc leur nom de famille, c'était Blanchard, donc très français. Et donc, quand on a été avec eux là-bas, ils ont retrouvé des gens de leur famille qui avaient donc été aux galères. Alors, c'était... Oui. Donc, oui, mais Blanchard, c'est très connu comme nom. Donc, il y a énormément d'Américains, comme donc ses amis, et donc effectivement en Grèce, qui recherchent leurs ancêtres, sachant que voilà. Donc, si vous allez là-bas, effectivement, quand on voit ces 5000 noms, c'est impressionnant. 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 Attends, après, parce que je voudrais. Alors, Une salle terrible aussi, c'est la salle des prédicants. Alors les prédicants, c'était ceux qui, à l'absence des pasteurs qui avaient été ou tués ou emprisonnés, qui prenaient le relais. C'est-à-dire que dans l'église, mettons ici, mettons que notre Géraldo soit pris par la patrouille, il faudra que les frères prennent le relais. Donc ils ne seront pas appelés pasteurs, mais ils seront appelés prédicants. Et cette salle s'appelle la salle des prédicants. Et donc, eux aussi, bien entendu, parce que l'autorité ne faisait pas de différence, hein, c'était le même sort que les pasteurs, donc ils se retrouvaient, eux aussi, ou en galère ou en prison. Donc cette salle est entièrement dédiée à ces prédicants. Alors vous avez ici donc prédicants et pasteurs martyrs morts pour la défense de l'évangile et de la liberté. C'est ce qui est marqué en haut. Et vous avez là le nom de ces prédicants, ou pasteurs aussi. Hein. Bon, je passe un peu, mais bon. Voilà. Alors, il y avait parmi tous les martyrs, j'ai parlé tout à l'heure de la roue. Alors la roue, c'était quelque chose d'épouvantable. On attachait la personne sur une roue, de chariot, je ne sais pas quoi, et on lui brisait les membres, un coup de barre de fer, et il mourait dans de terribles souffrances au bout d'un certain temps. Quand je vous dis qu'il traitait pire que si ça avait été des ennemis d'un autre pays. Et ce qui m'a touché, c'est ça. En regardant, prédicant inconnu. Et quelqu'un m'a fait remarquer qu'il y en a aussi un autre ici. C'est nos soldats inconnus. Vous connaissez nos soldats inconnus, hein, à l'arrêt de triomphe, etc., etc. Eh bien ici, c'est nos soldats inconnus. C'est ceux qui ont combattu pour que l'évangile puisse continuer à être propagé en France. Alors je dis, oui, il est peut-être inconnu des hommes, mais il est connu du Seigneur. Et c'est ça le principal. Parce que nos noms soient inconnus, on n'a pas grand-chose à faire. Mais le Seigneur dit, je vous connais par votre nom. D'accord ? Alors ça, c'est quelque chose qui m'a touché, parce que cette agonie terrible, hein, c'était abominable. Hein. Imaginez un peu. Hein. C'est ce qu'on appelle être roué de coups. Vous avez peut-être entendu cette expression française d'être roué de coups. Ça vient de là. Alors, des dragonnades. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est à Orange, justement la ville dont on parlait tout à l'heure. Alors, le roi envoyait des soldats, qu'on appelait les dragons, et donc ils commettaient les pires exactions. Ils étaient donc logés dans les villes plus ou moins protestantes, en Poitou, en Saintonge, enfin dans toute la France. Les gens étaient obligés de les loger, de les nourrir et de payer leur solde. C'est eux qui payaient la solde des soldats. Alors là, c'était vraiment épouvantable. Pour les forcer à céder, les dragons détruisaient leurs biens, dévoraient leurs provisions, vendaient les meubles et les récoltes, violaient et torturaient leurs hôtes par le feu, la faim, la soif, les coups, etc. Ils faisaient mourir les enfants sous les yeux de leur mère. L'épouvante qui saisissait la population à leur approche était énorme, et donc ils vont ainsi soumettre de nombreuses régions, puisque à la vue de certaines troupes, les protestants vont se redevenir catholiques. Donc voilà. Et donc les responsables des régions, les intendants des régions, ont pu déclarer au roi, il n'y a plus de huguenots dans ma province. On voit très bien là ces scènes épouvantables. Regardez ça un peu. Enfin, ouais. C'est terrible. Alors les jeunes filles huguenotes étaient enlevées et emmenées dans des monastères catholiques pour y être persécutées et converties de force. On voit toujours tout de suite le prêtre sympathique qui est là, regardez ce qui se passe. Alors, vous avez encore une scène de dragonnade, hein, exaction auprès des familles huguenotes, les prisons regorgeaient de fidèles, la roue, les galères, le bûcher étaient chargés de martyrs. C'est-à-dire que c'était pensé de détruire complètement tout ce qui était donc protestant. Alors, quelque chose d'odieux, c'est le jeu de loi utilisé pour le retour au catholicisme des enfants protestants. C'est-à-dire que, à partir de 7 ans, on prenait les enfants, on les emmenait dans les monastères catholiques, et on essayait, et je pense que malheureusement pour un enfant ça va être assez facile de manipuler, par un système ludique, un catéchisme ludique, pour qu'ils reviennent à la foi catholique. C'est-à-dire que vous aviez un jeu de loi. Voilà. Et à chaque fois qu'ils passaient une étape, ils avaient donc une récompense jusqu'à arriver jusqu'au bout du système. Donc, rendez compte un peu. C'est inimaginable, c'est innommable. Vous qui avez des enfants, imaginez un peu ce genre de choses. Lorsqu'on parle des héros de la foi, on pense à ceux d'Hébreux 11. Et lorsqu'on relit Hébreux 11, versets 37 et 38, on se dit, mais ça colle parfaitement pour nos huguenots. Regardez. Ils furent torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, ça va, et les montagnes, dans les cavernes, et les antres de la terre. Et si c'était nous demain? Vous savez, il ne faut pas croire qu'on est libéré de tout système qui peut demain nous empêcher de nous réunir, nous empêcher de mettre notre foi, etc. Et j'ai trouvé que justement, quand j'ai dit que c'était dédié aux héros de la foi, j'ai dit, mais ceux des bronzes, alors ceux des bronzes, c'est bien avant, parce que c'est l'Ancien Testament. Mais vous voyez comment les choses se répètent. La croix guenote, opprimée, mais pas abattue. Donc, c'est avec une colombe, vous connaissez ça, hein, d'origine languedocienne, inspirée par la croix du Saint-Esprit, fondée par Henri III. Bien sûr, on a rajouté après donc la colombe. Et porter une croix huguenote, mes amis, c'est plus que porter un bijou. Hein. C'est porter le témoignage que des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont donné leur vie afin que nous puissions connaître, nous, la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est pas à porter à la légère, c'est pas un simple bijou. L'enclume de la foi huguenote, plus à me frapper on s'amuse, tant plus de marteau on y use. Donc la foi, notre foi doit être comme cette enclume. On tape dessus, mais on casse le marteau avant, hein, avant l'enclume. Hein. Et notre foi doit être de cette manière-là. Dans un temple d'aujourd'hui, dans les Cévennes, mais un temple qui a été construit bien après, j'ai pu lire « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Eh oui, hein, c'est d'aujourd'hui, ça. C'était, bon, j'ai pris cette photo il y a peut-être 5-6 ans, même pas. Donc, vous voyez, ils ont eu raison. Aujourd'hui, ils peuvent dire ça. Ils ont persécuté, ils ont cassé, ils ont brisé, mais Dieu a dit, le ciel passeront, mais ma terre, là, mes paroles ne passeront pas. Tout peut passer, mais pas mes paroles. Et puis au-dessus, j'aime ce verset, nous prêchons Christ, Christ crucifié, qui est le cœur de l'évangile. Hein. C'est pas, quand on prêche ça, c'est pas un prêche à l'eau de rose, n'est-ce pas, mes amis? Et enfin, pour terminer, c'est ce que je terminerai avec ce beau verset d'Hébreux 12. Nous aussi, donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et on a vu tous ces témoins à l'instant, rejetons tout fardeau. J'espère que ça va être pour vous un encouragement dans votre foi, sinon ça a peu d'intérêt, hein, si ce n'est pas la valeur. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Et je me dis, je ne sais pas comment ils ont pu résister. Aussi bien les hommes que les femmes, les galères, la roue, la prison. La seule manière que la Bible nous enseigne, c'est qu'ils ont fait quoi? Ils avaient les regards sur Jésus. Et quand on a les regards sur Jésus, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On lève la tête. Et c'est vrai, hein, c'est un réflexe, hein. Je dis regarde sous Jésus, mais maintenant j'ai la tête. Et je pense que c'est notre seule et unique manière de résister. Alors, on peut avoir des persécutions autour de nous, hein. Famille, travail, je sais pas. Ouais. Mais je pense qu'à côté de ce qu'on durait, ces personnes, c'est pas grand-chose. Hein. Quand l'apôtre, si c'est un apôtre qui a écrit ça, il a écrit ça à des chrétiens qui étaient persécutés et abattus, rappelez-vous, cette épître aux Hébreux. Donc prenons ce verset pour nous-mêmes et courons. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce que nous avons pu voir ensemble. Seigneur, ce qui s'est passé est une réalité connue, reconnue en France. Seigneur, nous sommes étonnés de voir la barbarie qui était contre tes enfants. Mais ta parole est claire, si le maître a été persécuté, nous le serons aussi. Seigneur, je te demande que cela nous encourage à courir, ayant les regards sur Jésus, qui est celui qui nous encourage, qui peut nous fortifier, qui peut nous donner, même dans des moments qui semblent impossibles à vivre, le courage, Seigneur, et la foi pour résister. Merci, parce que dès Étienne, le premier persécuté de l'Église, il a eu les regards sur Jésus. Seigneur, donne-nous d'avoir, nous aussi, dans les moments faciles et difficiles, toujours, les regards sur ton Fils, notre bien-aimé Sauveur. Amen.